Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Je vous souhaite une très très bonne année 2023, année rugby comme vous le savez, et je suis toujours accompagné par le meilleur, l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, une très belle année 2023 pour vous toutes et vous tous. Poulain Rafut, hein, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby et on va continuer en 2023 à rafuter le rugby en long, en large et surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine, hein, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir l'entraîneur des trois quarts de l'Union Bordeaux-Bègles, le Frédéric Charrier, l'emblématique adjoint de Christophe Hurios, doit faire face à une situation inédite depuis l'éviction de son mentor à l'UBB. Il nous racontera comment ça se passe pour lui depuis cette réorganisation au sein du staff. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts, je l'imagine. Poulain Rafut, saison 6, épisode 19. C'est parti. Allez, première partie dans Poulain Rafut, Raph, premier épisode de l'année 2023 pour Poulain Rafut. Et forcément, c'est la période des vœux. Quels sont les tiens pour le rugby français ?
Oui, Arnaud, comment ne pas commencer cette année sans la souhaiter bonne à toutes celles et ceux qui font notre rugby, à commencer par les bénévoles, éducatrices et éducateurs, qui œuvrent dans l'ombre pour que nos gosses puissent s'éclater été comme hiver avec leur goûter, leur sandwich et se déplacer bien encadré. Bonne année à celles et ceux qui œuvrent dans les bureaux, cette fourmilière sans qui le rugby pro n'existerait pas, celles et ceux au digital, à l'événementiel, en passant par le financier et le juridique, qui permettent que tout tourne mieux chaque semaine et chaque week-end et les jours de match. Bonne année aux parents, bien sûr, dont certains se pèlent l'oignon tous les week-ends pour encourager leurs bambins, parfois des centaines de kilomètres de leur maison, tous les dimanches. Et j'ai bien dit encourager, car toute insulte envers le corps arbitral, envers les gamins adverses ou leurs parents, ou bien encore envers votre propre enfant, ne fait pas de vous un supporter, mais bel et bien un. Je vais rester poli pour ce début d'année. Bonne année aux supporters aux quatre coins de la France qui mettent une partie de leur oseille dans les fanions, les banderoles, les écharpes, les places, les déplacements, qui ne comptent ni leur temps ni leur passion pour supporter leur petit club de cœur et ou leur club pro. Vous êtes porteurs, vous aussi, du respect que l'on exige chaque week-end des joueurs pro et amateurs. Là aussi, et j'y incorpore en passant, ceux des réseaux sociaux, chers à mon cœur, petite dédicace à ceux qui, du fond de leur canapé, au coin du rade ou en tribune, se permettent d'insulter les arbitres, un joueur ou un adversaire. Là aussi, vous n'êtes pas un supporter, mais bel et bien un abruti. J'ai été soft. Bonne année aux journalistes consultants qui font aussi que nous avons le meilleur championnat du monde. Et cette année spéciale, messieurs, mesdames, les consultantes et consultants, les journalistes, je vous souhaite de mettre en lumière tout ce que ce sport peut apporter de superbe, d'enthousiasmant pour attirer le plus de supporters possible. Racontez-nous des belles histoires, des vraies, des inspirantes, des authentiques. Notre rugby en regorge. Et puis, bonne année à tous les staffs d'honneur au top 14 qui font un boulot énorme, eux aussi, et qui vivent certes de leur passion, mais aussi de par ce stress que très peu d'entre nous peuvent ressentir. Bonne année, bien sûr, à toutes les joueuses et les joueurs, jeunes et vieux, pro ou amateurs. En cette année de Coupe du Monde, espérons le moins de commotions possible, le plus d'essais, le moins d'affaires. D'un autre côté, on ne peut pas faire pire qu'en 2022, à ce niveau-là. Et le plus de passion, de soutien, de fraternité, d'engagement sur et surtout en dehors du terrain. Car en ces temps incertains, il est essentiel d'être au soutien les uns des autres. À l'amitié, l'amour, la joie. Je vous souhaite une bonne année 2023.
Allez, deuxième partie de Poulain Rafut, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Frédéric Charrier, entraîneur des trois quarts centres de l'Union Bordeaux-Bègles. Frédéric Charrier, l'emblématique adjoint de Christophe Hurios, qui doit composer depuis quelques semaines, évidemment, sans son mentor au sein du staff de l'IBB, une situation inédite, une situation humaine probablement un petit peu difficile. Hein, Fred, on va en parler. Et Raph, tu avais envie d'en savoir un peu plus, hein, c'est bien ça ?
Et oui, mon cher Arnaud, le rugby professionnel, on vient d'en parler dans la ruelle, hein, offre parfois des situations embarrassantes. Et quand j'ai appris l'éviction de Christophe Furios, manager et homme, pour lequel j'ai quand même pas mal de respect, on l'a déjà reçu deux fois ici, j'ai même lui proposé une troisième fois il n'y a pas longtemps, mais il n'était pas prêt à parler. J'ai beaucoup d'estime et moi, j'ai tout de suite pensé à toi, Fred. Voilà, l'indéboulonnable, je dirais, adjoint qu'on voit toujours sur le bord du terrain avec le casque, tu vois, prenant limite des grandes nuquettes de Christophe quand ça marque et puis des grandes nuquettes quand ça marque pas, tu vas avoir les oreilles en chou. On va en parler. Moi, je me suis posé la question de savoir comment humainement, on pouvait vivre avec un truc pareil. Comment on fait pour vivre entre le fait de vouloir garder son boulot, sans trahir une personne avec qui on travaille depuis de nombreuses années, avec qui on a tissé des liens très forts. Bref, je suis heureux, Fred, de te recevoir et que tu aies accepté l'invitation pour évoquer le sujet, mais aussi les bons résultats actuels de l'UBB. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hein. Tu étais avec les Barbarians pour préparer le match contre les Fidji lorsque tu as appris l'éviction de Christophe. Je veux savoir comment tu as vécu cette situation, sachant, je le rappelle, hein, que tu as été sous les ordres de Christophe et que tu es devenu son entraîneur adjoint pendant toutes ces années jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
Ouais. Bah, écoute, c'est vrai que la semaine avec les Barbarians, ça a été un peu compliqué pour moi, dans la mesure où décision de l'éviction de Christophe a été très brutale. Certes, on fait un début de saison un peu en dents de scie, compliqué. Il y a ce premier match contre Toulouse qu'on perd à la maison et qui nous met de suite dans la difficulté au niveau du classement. Mais bon, voilà, on sort de toutes trois saisons pleines où à chaque fois on est qualifié, sauf la première, on est premier, mais ça ne se termine pas, donc on ne fait pas les phases finales. Parce qu'il n'y a pas de phase finale, tout simplement. Mais ensuite, on en est à chaque fois en demi-finale. On fait une demi-finale de Coupe d'Europe aussi. Donc, de cette décision sur la quatrième année de Christophe, sachant que lui, il avait re-signé 2 ans, c'était compliqué. Nous, on est en pour parler pour prolonger aussi, pour s'aligner sur sa prolongation de contrat. Donc, voilà, donc, décision très difficile à accepter. Et pour moi, qui était loin à Lille pendant une semaine, c'était difficile à gérer.
C'est un type sale quand même, en fait, de vivre quand même avec une semaine avec les Babas, avec un état d'esprit qui est quand même assez extraordinaire, et de savoir à 2 jours d'apprendre justement que Christophe, c'est un grand écart qui doit faire mal au rouleau quand même.
Ouais, c'est sûr, surtout que pour moi, c'est la première expérience avec les Babas. Donc, j'étais super content de participer à cette aventure-là. Et bon, voilà, ça a été un peu gâché par rapport à cette nouvelle.
Tu as eu envie de partir, tu en as discuté avec Christophe, envie de partir avec lui, ou est-ce que aussi dans la… Enfin, c'est toujours pas l'élève qui doit dépasser le maître, hein, loin de là, mais est-ce qu'il était temps, est-ce que c'est un mal pour un bien aussi pour toi, aussi personnellement? C'est difficile comme question de dire ça peut-être dans un média, hein, mais…
Surtout qu'il y a 4 questions dans ta question, Raphaël. Donc,
savoir si tu en as discuté, savoir si tu avais eu envie de partir avec lui, quoi.
Non, mais effectivement, la question, elle s'est posée. Hein. Bon, Christophe s'est fait virer. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Franchement, au début, j'avais du mal à me voir continuer. Lui, il m'a dit, bon, après, j'étais en contact tous les jours avec lui. Donc, lui, il m'a dit, voilà, finis ton contrat, finis l'aventure à l'UBB. C'est pas parce que moi, je me suis fait virer que tu dois partir. Voilà, c'est une situation qui est pas facile. Il faut que tu finisses ton contrat, montre que t'es pro et tu finis tu vois, jusqu'au bout de ton contrat en assumant tes responsabilités. Donc voilà, j'ai beaucoup échangé avec lui. J'avais besoin aussi, en revenant au club, de parler avec le président. Alors évidemment, je vais pas vous raconter dans les détails ce qui s'est dit dans le bureau, mais j'avais besoin de cette discussion-là. Et ensuite, j'avais besoin d'avoir une discussion aussi avec les joueurs. Hors caméra, dans la salle, juste entre eux et moi, pour leur dire ce que je ressentais. Et à partir de là, j'ai pu me projeter sur les 6 derniers mois à la LUBB.
Justement, on va parler, hein, de cette nouvelle situation avec les bons résultats, hein, qui s'enchaînent un petit peu à l'UBB. Mais avant de poursuivre vos échanges, messieurs, Raph, je te propose que tu nous dresses le portrait de Fred Charrier façon Poulain Rafut, c'est maintenant.
Oui, les choses peuvent aller tellement vite pour un manager, adulé un temps, mis sur un piédestal quand tout brille, dépoutraillé quand tout bascule. Les types sur le devant de la scène, chaque week-end, sont lâchés en pâture quand les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, quand la machine s'enraye. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une vingtaine de personnes derrière qui bossent en mode sous-marin, partageant le stress de se faire torpiller à tout moment. Eh bien, Fred, ça fait 10 piges. que tu en bouges, justement, des hauts et des bas. Alors, surtout des hauts, quand même, quand en tant qu'adjoint de Christopher Yost pendant près de 12 ans, parce qu'il y a quand même eu des titres, on va en parler, et puis des moments plus compliqués, comme l'éviction de celui-ci, il y a donc quelques semaines. Donc, champion de France en Pro D2 en tant que joueur avec Montpellier en 2003, passé par Lourdes, puis Oyonnax. Tu as été, en tant qu'entraîneur des trois quarts, champion de France en 2013 avec Oyonnax, puis en 2018 avec le Castres Olympique. Aujourd'hui, tu es à la tête de l'UBB, tu as connu des bas. Aussi, déjà, en tant que joueur, et c'est justement, je t'en ai parlé en off, mais est-ce que tu faisais partie de ce voyage à Jambouin où le score a dépassé l'indécence en 2005 avec un hat-trick de Benjamin Kaiser et 83 points dans la musette, si je ne m'abuse.
C'est ça, exactement. J'y étais.
Tu étais là, je te taquine un peu, mais plus sérieusement.
Un essai sur le coup d'envoi. Est-ce que tu t'en rappelles? Un essai sur le coup d'envoi, quand même.
Ah, je ne me souviens plus, je me souviens de Kaiser, Benjamin qui avait marqué un hat-trick, et moi je me souviens de l'ailier face à moi. Ouais, on avait passé nous 80 minutes plutôt sympa, et
ouais. C'est peut-être tu t'en étais occupé de l'ailier que tu avais en face.
Pardon ?
Tu t'en étais occupé de l'ailier que tu avais en face.
Ouais, à l'insu de mon plein gré, j'ai envie de te dire, parce que moi, on me demandait d'aller tout droit. Après, qu'il fasse 80 kilos ou 100 ou 70, d'ailleurs, il n'en faisait pas plus de 70 si mes souvenirs sont bons. Bon, ouais, voilà, ça c'était la petite dédicace plus simplement. Donc, je te dis, on va parler de coaching avec toi, de Christopher Yost, bien sûr, mais aussi de ta vie d'homme et ta vie d'entraîneur dans le rugby. Comme l'a dit justement Arnaud, l'UBB commence à de nouveau à enchaîner les bons résultats. Grosse victoire samedi dernier sur Montpellier, d'ailleurs, 40-10, ouais, deux fois moins que nous, mais bon, ça c'est cadeau. Comment fonctionnez-vous aujourd'hui comment tu fonctionnes, toi, avec Julien Laher pour encadrer cette équipe aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là avec Julien. On s'est dit que bon voilà, c'était pas une situation qu'on avait choisie, donc il fallait l'assumer tous les deux. On voulait pas passer ou l'un ou l'autre pour le manager qui passe derrière Christophe. Donc voilà, on est dans une situation inédite, particulière et difficile à gérer. Donc on a dit on va l'assumer à deux. Donc voilà, on est tous les deux sur le devant de la scène. Assumer les responsabilités de l'encadrement de l'équipe.
Fred, qu'est-ce qui a changé finalement depuis que Christophe a été évincé, ou qu'est-ce que vous avez changé, et est-ce que vous avez changé quelque chose finalement dans le fonctionnement au quotidien de cette équipe?
Nous, ce qu'on a dit aux joueurs, c'est que le projet dans lequel on est engagé depuis 3 ans, on y croit dans ce projet, dans ce fonctionnement-là, que ce soit au niveau sportif, que ce soit dans l'organisation de l'équipe, l'organisation des entraînements. C'est un projet dans lequel on croit et qui nous a amené à des résultats. Donc, on a dit aux joueurs, si vous voulez changer tout ça, mais ce n'est pas avec nous qu'il faut continuer. Si vous voulez que nous, on continue, parce que ça vous va bien, nous, on ne changera pas de projet parce que c'est dans lequel on croit, dans lequel on a bien fonctionné, dans lequel on a eu des résultats. Donc, et c'est ce qu'on a dit au président aussi. Les joueurs nous ont dit que eux, tout ce qu'on faisait... Il n'y avait rien à changer parce que ils étaient conscients qu'eux aussi, on avait eu des résultats avec ce fonctionnement-là. Donc, on est parti là-dessus.
Est-ce qu'on dit souvent qu'il y a un effet psychologique sur une équipe lorsqu'un entraîneur est évincé, se fait virer, force est de constater que c'est le cas. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un déclic? En plus, on connaît la personnalité de Christophe quand même, qui est une forte, forte personnalité. Est-ce qu'il y a eu un déclic à la sortie de Christophe?
Ou des claques.
Je crois que tout le monde a été un peu surpris par cette décision-là. Et surtout avec 7 mois de compétition encore, donc c'est très très long. Des fois, ça peut arriver, il reste 2 mois de compétition, bon, tu finis un peu en autogestion, c'est déjà arrivé dans certains clubs. En autogestion, tu finis les 2 derniers mois et puis tu passes sur un autre projet. Là, il restait 7 mois de compétition, c'est énorme. Donc les joueurs sont des joueurs ambitieux, avec des joueurs qui ont des objectifs très élevés avec la Coupe du Monde en 2023. Donc ils n'avaient pas envie de vivre une saison chaotique, une fin de saison en roue libre. C'est ce qu'ils nous ont dit et nous, c'est pour ça qu'on est restés aussi. Donc à partir de là, évidemment, ils n'ont pas envie de passer pour des cons tout le week-end sur le terrain. Donc on est tenu d'avoir des résultats, d'être compétitifs tout le week-end pour assumer nos objectifs.
Fred, un petit mot. Il y a Mourad Boudjelal dans sa chronique qui a relevé quand même un truc qui est très particulier. C'est qu'on a actuellement 2 staffs à l'UBB et au Stade français qui peuvent potentiellement être champions de France demain et licenciés le lendemain de la finale.
Ouais.
Est-ce que c'est difficile à vivre?
Bon, écoute, c'est le monde du rugby pro qui est comme ça. Il y a des joueurs qui sont aussi en fin de contrat et qui seront peut-être amenés à faire une fin de saison. On demande toujours aux joueurs d'être pro, et même s'ils sont en fin de contrat et que tu dois leur dire bah, écoute, je t'annonce que l'année prochaine, tu ne seras pas renouvelé, mais par contre, tu fais partie de l'effectif et tu es un joueur important de l'effectif. On attend de toi que tu donnes le maximum. Je crois que c'est la même chose pour les entraîneurs. On a signé au départ, j'avais signé un contrat de 4 ans à l'UBB. Je suis sur ma 4e année. Voilà, pour l'instant, j'ai envie d'assumer mon rôle jusqu'à la fin de mon contrat et de faire en sorte d'avoir les meilleurs résultats possibles.
Est-ce que tu as pu avoir des échanges justement avec les fameux joueurs, ou est-ce que c'est difficile de travailler avec des fameux joueurs dont on dit que certains ne voulaient plus justement de Christophe Lurieux? Est-ce que c'était des rumeurs? Voilà, toi qui as un lien justement d'amitié avec Christophe, hein, voilà, vous avez bossé presque 15 ans ensemble en tant que joueur, entraîneur et entraîneur aussi, co-entraîneur. Tu as pu échanger justement avec ces joueurs sur cette problématique-là, ou ça ne sont que des bruits de couloirs, de réseaux sociaux et autres?
Ouais, c'est vrai que pour l'instant, pour connaître vraiment la vérité, le seul décisionnaire, celui qui a pris la décision d'écarter Christophe, c'est le président. Donc, c'est le seul qui connaît la vérité par rapport à ça. Donc, au début, je me suis posé beaucoup de questions, à savoir le pourquoi, du comment, tout ça. Donc, je n'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. C'est une décision suffisamment difficile à accepter au départ. Maintenant, j'ai eu une discussion avec des joueurs. Ils m'ont rassuré sur certains points. Donc, j'ai envie de vivre l'aventure à fond jusqu'au bout. Encore une fois, je suis pro, j'ai envie d'avoir les meilleurs résultats possibles. Je suis un compétiteur, je suis passionné par ce que je fais. Je ne suis pas trop rentré dans les détails pour répondre à ta question. Savoir qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été voir le président, qui n'a pas été voir le président. Aujourd'hui, je me concentre sur mon boulot, sur l'équipe et avoir les meilleurs.
On l'a dit, le métier de manager, c'est quand même un métier très, très particulier, le métier d'entraîneur aussi, parce qu'on a dit que les staffs aussi pouvaient être mis de côté aussi assez rapidement. Depuis l'annonce du départ de Christophe, comme je le disais, hein, c'est une espèce de grand écart émotionnel entre... et les babas et l'UBB, maintenant que l'UBB fonctionne bien, mais le mentor n'est plus là. Compliqué maintenant. Donc, ton avenir à court terme, on le connaît. À moyen terme, est-ce que tu te projettes ailleurs déjà dès maintenant? Je pense qu'il y a des discussions. On ne demande pas un scoop, mais j'imagine bien qu'on ne peut pas rester à ne pas savoir ce qu'on fait le 23 juin à minuit. Quoi.
Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas de projets qui sont établis pour l'instant. Moi, je suis sous contrat jusqu'au mois de juin. Donc, après, voilà, je te cache pas que j'aimerais bien continuer à travailler avec Christophe, hein, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très particulière, qui va au-delà du manager-entraîneur, parce qu'il m'a entraîné, parce que ensuite, il m'a demandé d'entraîner avec lui. Nos familles sont proches aussi. Donc, on a une relation particulière ensemble et il y a une grosse confiance entre nous dans le travail aussi. Donc, j'ai envie de continuer à travailler avec lui. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si ça va se faire, ça ne va pas se faire. On verra par la suite.
Fred, justement, c'est marrant parce que tu as devancé la question suivante, mais on voulait te poser la question, évidemment, que si tu avais envie de continuer à travailler avec Christophe. Et en même temps, on se posait la question de savoir si… Raph a un peu évoqué le sujet tout à l'heure. Est-ce que quand on est un jeune entraîneur, qu'on travaille depuis 10, 15 ans sous la férule d'un personnage aussi charismatique que Christophe Furios, est-ce que tôt ou tard, on n'a pas envie aussi de s'émanciper, d'aller chercher autre chose, de connaître peut-être un autre fonctionnement, de prendre un peu plus de hauteur?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec un autre manager que Christophe? Ça, c'est une des premières questions qu'on peut se poser. Moi, dans le fonctionnement avec Christophe, j'ai une confiance totale en lui. Je sais que c'est un très, très bon manager. Dans le management des hommes, il est exceptionnel. On a évolué aussi ensemble depuis un petit moment. Alors, quand on a commencé ensemble à Oyonna, il était entraîneur des avants, il s'occupait de manager les avants. Moi, j'étais entraîneur des trois quarts et je m'occupais de manager les trois quarts. Notre fonctionnement a évolué. Il est devenu manager exclusivement. Et moi, je suis resté entraîneur sur le terrain avec un autre entraîneur, en l'occurrence Joe Elab. Dans le fonctionnement, dans un staff, je suis pleinement épanoui. J'arrive à trouver des moyens de progresser, de toujours évoluer. Donc, pour l'instant, dans ce travail-là, je n'ai pas besoin de chercher un autre manager. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'un jour, j'ai envie de passer manager ? J'ai envie de te dire que c'est un autre métier, en fait. Il y a entraîneur et manager, c'est deux métiers différents. Je pense que je suis encore un jeune entraîneur. J'adore ce que je fais, j'adore entraîner, j'adore animer les séances sur le terrain. Christophe n'est pas sur le terrain à animer. Il est sur le terrain avec nous, mais il est toujours un peu en retrait. Moi, je suis au cœur de l'action, j'anime les séances, je monte les séances, j'essaye de faire tout ce que je peux pour améliorer le potentiel individuel, améliorer le potentiel de l'équipe. Et ça me plaît. Je suis très épanoui dans ce travail-là à l'heure actuelle. Peut-être que dans quelques années, je passerai, j'aurai envie de passer à manager. Mais dans un premier temps, à l'heure actuelle, j'ai envie de rester entraîneur.
Moi, j'ai une question quand même, parce que c'est vrai que Christophe Furios est un personnage truculent, j'ai envie de dire. C'est vrai que pour nous, les médias, c'est quelqu'un d'assez formidable. Il a toujours le sens de la formule. Il a cette droiture aussi. Quand il a des choses à dire, il le dit, hein, qu'on soit journaliste, joueur, entraîneur, président, peu importe. Quand on est son adjoint, ça doit être pareil, non ? Quand ça souffle fort, c'est quoi ? Ouais. C'est tous aux abris aussi quand on est adjoint de Christophe Furios ou comment ça se passe ?
Après, ce qui est drôle, c'est que je suis passé à Oyonnax avec lui, je suis passé à Castres avec lui, je suis arrivé à Bordeaux avec lui. Et à chaque fois que j'arrive dans un club, dans un staff, en fait, ceux qui ne le connaissent pas, quand ils voient que ça barde un peu, ils me regardent tous, tu vois. Ils me disent, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Est-ce que vous n'êtes pas complémentaire, justement ?
Ouais. Et du coup, moi, je vais voir les autres, je leur dis, bon, les gars, calmez-vous, c'est rien. C'est un peu tendu en ce moment, mais ça va se calmer, voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quoi. Après, ça peut être une tornade de temps en temps. Mais voilà, après, Christophe, comme tu l'as dit, quand il a quelque chose à dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit. Des fois, il ne met pas trop les formes. Ça vient comme ça vient. Mais au moins, il dit ce qu'il pense et il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Il ne va pas faire quelque chose en pensant à autre chose derrière. C'est clair, c'est net, il te dit les choses. Et donc voilà, alors, après, quand c'est... Quand on est dans une tempête, ben on est un peu, comme tu l'as dit, tous aux abris, on se calme et on attend que ça passe.
Alors on va revenir sur l'UBB. Vous avez quand même fait franchir un cap quand même à l'UBB qui avait du mal justement à s'installer dans les six. Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on évoque la fin de saison de l'UBB. Toi, comment tu la vois ? J'imagine bien le plus loin possible, une fois de plus, jusqu'au 23 juin. On a le sentiment que les joueurs se sont fixés une mission, celle de ne pas passer pour des cons et qu'ils veulent aller le plus loin possible. C'est ton sentiment ?
Ouais, voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les joueurs qui sont pas forcément vraies dans les médias. Depuis le début de la saison, on a le sentiment d'en prendre plein la gueule, soit les joueurs, le staff. Donc voilà, ils ont pas envie, comme tu l'as dit, de passer pour des cons. Ils ont envie de performer jusqu'à la fin de la saison. On avait l'ambition, l'objectif. De se qualifier en début d'année. Donc, on veut rentrer dans cet objectif-là. C'est sûr, ça ne va pas être facile. Comme tous les ans, ça va se jouer à la dernière journée. Donc, voilà. L'objectif, c'était de faire une série de victoires, une série positive pour remonter dans le classement, parce qu'on sait très bien qu'on a besoin de faire des séries pour s'installer dans le haut du classement. Et puis, voilà. Et après. On verra bien ce qui va se passer d'ici la fin de la saison.
Une dernière question, parce que Fred, tu as vu évoluer le rugby. On a parlé justement de toi en tant que joueur à Montpellier et puis à ta fin de carrière à Oyonnax. Tu as vu le rugby évoluer, en fait. Donc, Oyonnax, ouais. Castres, ce n'étaient pas les clubs les plus médiatisés, on va dire. Tu te retrouves à l'UBB, justement, avec cette médiatisation, avec les réseaux sociaux. Quel est ton point de vue d'homme par rapport à l'évolution du rugby, comme tu l'as dit, hein. On a vu, on peut en parler. On a parlé de Cyril Jalibert, justement, notamment. Et entre autres, Comment tu perçois justement cette évolution aussi du rugby et des réseaux sociaux et tout ce qui se fait aussi autour, toi qui as connu justement ce rugby avec l'importance du vestiaire. Aujourd'hui, les caméras sont dans les vestiaires. Enfin, comment tu vis cette évolution ?
Bah, c'est sûr qu'on voit bien que le rugby évolue, que les réseaux sociaux prennent beaucoup d'importance aujourd'hui dans un vestiaire. On peut toujours regretter ce qui se passait avant, ce qui se disait dans le vestiaire, rester dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais bon, il faut évoluer avec son temps. On dit souvent que le rugby a 10 ans de retard sur le foot. Et je crois qu'effectivement, on est vraiment là-dedans. On suit l'évolution du professionnalisme du foot. Donc, faire en sorte qu'on n'aille pas vers les dérives du foot, essayer de conserver un peu la particularité et les charmes du rugby, notamment dans un vestiaire sacré, avec les anciens qui doivent un peu guider et amener la culture d'un club. Je pense que ça, c'est important, même s'il y a des contrats, quand on va dans d'autres clubs, il faut arriver à garder les cultures de club. Et je crois qu'à chaque fois que nous, on est passé, que ce soit à Oyonnax, à Castres ou à Bordeaux, on a essayé de s'inspirer de la culture du club pour amener notre projet.
Allez, juste pour conclure, Fred, une dernière question, c'est la période des vœux. Si tu avais un vœu sacré aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle année 2023, ce serait lequel ?
Ben, ça serait de dire que je pars de l'UBB à la tête haute, en ayant rempli mon contrat jusqu'au bout, et au moins, je n'aurai pas de regrets par rapport à ce qui s'est passé.
Avec un bouclier, par exemple ?
Ah, ça serait idéal.
Est-ce qu'il y aura un peu de Christophe Furios, d'ailleurs, dans ce bouclier ? Parce qu'il aura quand même managé cette équipe 3 ans et demi. Il y aura que les 6 derniers mois, finalement, sans lui.
Ben, écoute, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, le projet qu'on pilote aujourd'hui, c'est le projet qu'a installé Christophe à l'UBB. C'est le projet qui nous a permis d'avoir des résultats. Et aujourd'hui, si on a des résultats, c'est parce que on s'inspire de ce qui a été fait la saison précédente. Donc, effectivement, il y a la patte Christophe Furios aujourd'hui à l'UBB.
Fred, un grand merci. Le mot de la fin, c'est une coutume dans Poulain Raffut. Il n'est pas pour l'invité, il est pour la star internationale, l'ancienne gloire du Stade français, Raphaël Poulain. C'est à toi.
International, j'ai perdu les clés du camtar, j'y suis jamais allé. Mais bon, ça c'est pas
international, moins de 20 ans, pardon.
Je sais, Arnaud. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. Non, le mot de la fin, que dire ? Si Chabandelmas s'est plaint comme un œuf aujourd'hui, c'est aussi que l'UBB a franchi un cap, et c'est aussi grâce à Christophe Furios et à tout son staff. Donc Fred, moi j'étais ravi de te recevoir, sans rancune sur cette défaite en 2005, bien entendu. Et en tout cas, le meilleur pour la fin d'année, en tout cas le meilleur pour la fin de saison pour toi. Et puis longue vie à toi dans le métier d'entraîneur et plus tard peut-être de manager. Et j'ai envie de te souhaiter une bonne année. Et puis derrière toi, j'ai envie de souhaiter une bonne année à Christophe Furios, parce que voilà, n'oublions pas, rendons aussi à César ce qui appartient à César. Je pense, c'est pas de le bader, mais pour avoir beaucoup échangé avec lui ici et aussi en off. Voilà, comme je le dis, c'est les paratonnerres en général, c'est les managers. Donc à tous les managers, dont lui. Qui ont pu se faire virer. Voilà, je lui souhaite en tout cas une bonne année de retrouver un club avec ou sans toi. Et je souhaite avec toi, parce que le duo est quand même sur le bord de terrain, ça a quand même de la gueule, quoi. Tu vois, c'est la passion et la raison. Enfin bref, on pourrait philosopher là-dessus, mais voilà. Il nous manque un peu sur le bord du terrain. En tout cas, en tant que supporter et amateur de rugby, il nous manque. Et votre duo nous manque. Donc, en espérant vous revoir tous les deux un de ces jours. Voilà.
Mais merci beaucoup de m'avoir reçu, et on embrasse évidemment Christophe.
Voilà, la deuxième partie de Poulain Raffut prend fin. On va enchaîner évidemment, nous, avec Raphaël, pour le débrief de ce podcast. Allez, troisième partie dans Poulain Raffut. Raph, on vient de passer un merveilleux moment avec Fred Charrier, garçon peu médiatique, mais qui gagne à être connu, qui s'est livré sans retenue hein, durant cette interview que tu as brillamment menée. Il évoque notamment, évidemment, sa relation avec Christophe Furios, la situation complexe qu'il vit aujourd'hui à l'UBB. Et on sent bien quand même qu'à l'avenir, le duo pourrait très vite se reformer. C'est ton sentiment aussi, Raph ?
Oui, ça se sent, parce que comme il le dit, il ne veut pas devenir manager tout de suite. Et puis Christophe, il gagne 2 titres avec lui quand même. Il gagne 3 titres avec lui, dont un en tant que joueur et 2 titres en tant qu'entraîneur adjoint de Christophe. Donc moi, je te dis, je le pense vraiment. Je trouve que ce duo, il détonne. On a besoin d'avoir des duos comme Laurent Labitte et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais il est clair que dans moins d'un an, ils vont se retrouver, ils vont retrouver un club et puis pouvoir atteindre encore le Saint Graal avec un club. Moi, ce que j'aimerais bien les voir, c'est avec un club peut-être un peu plus médiatisé que ce que n'avait été Oyo et Cas. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un échec à Bordeaux. Je parle bien sûr pour Christophe individuellement en tant que manager, mais bon. Ouais, ce serait cool de les revoir tous les deux. L'un va pas sans l'autre. Quand tu regardes un match sur le terrain, ça n'a plus la même gueule sans Christophe.
Un mot quand même sur Christophe Furios, Raph. On sait, on connaît tes liens avec Christophe. L'avenir lui réserve probablement de reprendre un club. On évoque en ce moment plusieurs pistes. C'est ce que tu lui souhaites, j'imagine.
De toute façon, je n'étais pas dans le secret des dieux de ce qui a pu se passer dans les vestiaires à l'UBB. Bien sûr qu'il y a dû avoir des tensions, ça n'a pas fonctionné. Même si, pour moi, les trois premières années sont un succès, en tout cas, parce que Chaban, parce que la Coupe d'Europe, parce que cette première année, à mon avis, cette première année fait beaucoup, beaucoup de mal, en fait, beaucoup de mal à Christophe. Et à,
oui, on rappelle qu'ils étaient premiers du championnat lors de l'arrêt en raison de l'épidémie de Covid.
L'épidémie de Covid. Bien sûr qu'on veut le revoir sur le terrain, mais même au-delà que du supporter, et je ne suis pas du tout ami avec Christophe, hein. C'est juste que moi, j'aime sa manière de manager. Après, je n'ai pas été managé par ce mec-là, mais je trouve que ce qui dégage, ce côté paternaliste peut en déranger certains. Moi, je trouve que c'est important de, voilà, d'avoir des figures tutélaires quand t'es... Et puis, ça marchait, quoi. Donc, voilà, ne pas l'enterrer trop tôt, parce que ce serait à la mode d'enterrer le paternalisme. Je trouve qu'il a cette figure qui est importante dans le rugby français. Donc, rien que pour ça, j'aimerais le revoir sur le bord du terrain. Ouais.
Allez, Raph, tu voulais revenir sur la superbe interview de Thomas Castagnette, parue lundi dans les colonnes de Midi Olympique, l'ancien petit prince du Stade Toulousain qui se confie comme rarement sur divers sujets. Une interview que tu as trouvée inspirante. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Parce que, comme je le disais dans la ruade, on a la chance d'avoir des histoires, des belles histoires à nous raconter. Lui, il le disait, hein, c'est à Mont-de-Marsan qu'il a fait ses armes et qu'il était fan des Boniface alors qu'il ne les avait jamais vus jouer. Moi, j'étais pas fan de lui, j'ai jamais été vraiment fan d'un joueur, mais j'ai aimé ce joueur dans les années 90. Tu vois, il a explosé au Stade Toulousain et en équipe de France. Moi, je faisais mes armes à Beauvais. Donc, j'étais content de voir ce côté humain qu'on peut aller chercher dans des interviews assez longues. Et il raconte que son nouveau challenge aujourd'hui, c'est de gravir des montagnes. Il raconte aussi comment il est devenu trader et la manière dont il a dû aussi revenir dans la vie normale. Il raconte, la culture du Stade Toulousain qu'on aime ou qu'on déteste, mais en fait qu'on envie aussi pas mal, parce que c'est la même perdurée depuis des dizaines d'années maintenant. Donc voilà, c'est découvrir l'homme derrière le sportif. Moi, j'aime ça. Donc merci au Midol, merci au Midi Olympique d'avoir fait cette interview, parce que je ne le voyais pas comme ça, en fait, ce bonhomme. Et c'est vrai qu'il en a chié. Hein. Il parle des blessures de manière hyper positive. Je trouve ça hyper inspirant, en fait, de faire du négatif du positif. Il parle de cette anecdote aussi où, en 2007, il reçoit sa non-sélection en équipe de France avec, bien sûr, Guy Noves, qui est quand même le meilleur des meilleurs, qui le rappelle en disant « Vas-y, viens ». Et puis, la manière dont se termine cette interview, je trouve juste ça énorme, qui dit « Mais en fait, je pense qu'il est temps de raccrocher, quoi ». Et ça, je ne sais pas, ça m'a. Et ça rappelle à notre fin à tous et à toutes quand on arrête le rugby, amateur ou professionnel. C'est de l'humain et c'est ce que j'ai aimé dans cette interview. Et voilà, je pousse tous et toutes à acheter le Midol rien que pour ça, parce que ça fait du bien, parce que ça humanise le sportif. Il est fan de Kylian Jornet d'ailleurs. Et voilà, comme quoi on peut être sportif de haut niveau, être fan d'autres sportifs ou d'autres gens inspirants. Moi, il m'a inspiré en tant que rugbyman. Et là, il m'inspire en tant qu'homme. Donc j'étais un peu. À la fois bouleversé et content de voir l'être humain derrière ce jeune talent que j'ai découvert quand moi j'étais enfant.
Voilà, c'était une interview évidemment à retrouver dans les colonnes de Midi Olympique. C'était en date du lundi 2 janvier pour ceux que ça intéresse. Deux belles pages d'interview avec Thomas Castagnette, l'ancien petit prince du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Enfin, pour conclure, Raph, un petit coup de gueule. Hein, durant les fêtes, l'Union Bordeaux-Bègles l'a annoncé la signature pour la saison prochaine de Damien Penaud, l'international. Hein. Alors, tu n'as rien contre Damien Penaud, tu n'as rien évidemment contre l'Union Bordeaux-Bègles, mais ça t'agace profondément que les transferts soient annoncés de plus en plus tôt dans la saison. Pourquoi ?
Parce qu'on l'avait vu pour Christophe Furios qui était parti, qui avait fait cette annonce justement 10 mois avant de partir de Castres. On a vu qu'Ituria, il y a 4 mois, avait pris la parole pour dire qu'il allait signer à Bayonne. Là, c'est Damien Penaud à l'UBB. Enfin, moi, j'ai une pensée pour l'ASM, pour les supporters de l'ASM qui se voient un peu dilapidés. Bon, après, c'est le jeu, hein, tu vas me dire, c'est le sport. Mais les mecs qui passent le périph' du jour au lendemain et qui vont jouer du jour au lendemain au Racing partant du Stade français, et même si l'inverse avait été fait venant du Racing vers le Stade français, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, ça fait sûrement vieux con de parler de ça, mais je trouve ça dommage d'annoncer parce que je pense que ça peut déséquilibrer une équipe, ça peut déséquilibrer le mental d'un joueur ou d'une équipe, l'investissement d'un joueur, même si on nous dit « mais non, je suis investi à 100% jusqu'à fin juin, jusqu'au dernier coup de sifflet final avec mon équipe ». Ouais, mais ça joue en fait, ça joue et je pense que c'est pas ça en fait, en tout cas pour notre sport, de se diriger un petit peu comme fait justement le mercato au foot, de pouvoir partir en milieu d'année, de pouvoir annoncer en milieu d'année qu'on part la saison d'après. Enfin, je trouve que ça fait un petit peu tâche par rapport à l'investissement en fait, individuel et collectif. Je trouve que ça fait un petit peu tâche. Et puis, voilà, je pense qu'inconsciemment, en fait, les résultats peuvent s'en ressentir sur le terrain.
Voilà, c'était le coup de gueule de Raphaël Poulain. C'est pas pour t'enfoncer un peu plus dans ta déprime, Raph, mais j'ai peur que malheureusement ça ne change pas et qu'on aille vers des jours qui ne te satisferont pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Poulain Rafut, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire.